Mangez Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
Heureux de vous retrouver dans Destination Région. Cette semaine, nous mettons un coup de projecteur sur un département qui ne demande qu'à être connu, la Corrèze. Pour nous faire découvrir cette destination, rien de mieux que de faire appel à quelqu'un qui connaît bien son territoire. Bonjour Gilles Berjal.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Mangez Vrai. Avec plaisir, pour être sur votre antenne.
Vous êtes chargé de des relations presse à Corrèze Tourisme. En préambule, si vous deviez définir votre destination en trois mots, ça serait lesquels?
Une destination qui est marquée par la nature, qui est marquée par de fortes valeurs environnementales, par un terroir d'exception, par un patrimoine qui est également exceptionnel, fortement marqué par le Moyen-Âge avec une multitude de beaux villages, le vert est la couleur emblématique du territoire qui est un patchwork en fait, hein. La Corrèze c'est un patchwork d'ambiance, d'atmosphère, de paysage, d'architecture avec beaucoup de variétés paysagères, architecturales, géologiques qui ont façonné depuis des millénaires ce territoire et qui font aujourd'hui le bonheur des touristes qui ont la chance de l'arpenter, de le découvrir.
Avec des auteurs par exemple comme Colette qui a séjourné ou qui est née même je crois.
Non, elle n'est pas née en Corrèze, Colette. Elle est née, elle est originaire de la Bourgogne, de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Mais lors de son deuxième mariage, donc elle a rencontré Henri de Jouvenel, qui était un notable corrézien, homme politique corrézien, qui était patron d'un groupe de presse et qui était propriétaire d'un superbe château qui s'appelle le château de Castelnauvel, qui est à quelques encablures de Brive. Et donc elle a vécu pendant plusieurs années avec Henri Jouvenel dans ce château. Et plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle est venue se réfugier chez sa fille, Belgazou, qui habitait les deux châteaux de Curemont, qui est un superbe village classé parmi les plus beaux villages de France. Donc en fait, Colette et la Corrèze sont intimement liées. Puis elle en parle d'ailleurs dans ses livres, notamment elle l'évoque fortement dans le journal À Rebours.
Merveilleusement bien d'ailleurs, il faut le souligner.
Alors, tout à fait, merveilleusement bien, absolument.
Votre territoire a des atouts extraordinaires. Pour preuve, ce dernier dispose de ce qu'on appelle des sites atypiques. Lesquels seraient pour vous les plus représentatifs pour se faire une idée de la Corrèze?
Alors effectivement, tout à l'heure, en définissant la Corrèze, on parlait de ce formidable patchwork qu'est la Corrèze à tous les niveaux. Et on a quelques sites qui sont regroupés dans un réseau d'ailleurs de sites de visite qui s'appelle le réseau des sites étonnants. On peut en citer quelques-uns emblématiques et qui représentent la diversité corrézienne. On a par exemple le gouffre de la Fage. Et oui, il ne faut pas oublier qu'il y a un gouffre en Corrèze également. On a le musée de l'homme de Néandertal. On a un extraordinaire site médiéval qui s'appelle les Tours de Mer, qui était une co-seigneurie où en fait sept seigneurs différents avaient fait construire chacun une tour entre le 12e et entre le 15e siècle. On a un incroyable village du Moyen-Âge qui a été reconstitué à l'identique par un féru, un passionné d'histoire médiévale. Ça fait un site vraiment exceptionnel. On a le musée du président Jacques Chirac. On a le château et les écuries de Pompadour, on a le jardin de Colette, on parlait de Colette tout à l'heure, mais Colette a également inspiré l'atmosphère et de ce jardin qui lui est dédié sur 6 hectares. Et on a un site absolument incroyable en Corrèze qui est unique en Europe et qui s'appelle les Pans de Travassac. En fait, c'est un site ardoisier qui existe depuis 3 siècles et demi, et qui aujourd'hui représente un site touristique d'une richesse exceptionnelle, parce qu'on peut y voir des pans d'ardoise de 80 mètres de hauteur, qui sont des stériles en fait, hein, puisque l'ardoise était extraite entre ces pans d'ardoise. Et il y a aujourd'hui une expérience hein, qui est vécue dans ce site touristique, qui accueille presque 30 000 visiteurs par an. avec une déambulation dans le site ardoisier avec des appliques incroyables. On a des ardoisiers qui taillent l'ardoise à l'ancienne, qui font des démonstrations de taille d'ardoise avec le rebillage, avec le clivage, avec des outils qui n'ont jamais évolué finalement parce que c'est les outils les plus adaptés qui continuent d'être fabriqués à l'identique dans la forge des ardoisières. Et on a même un musée de l'ardoise tout à fait étonnant qui est hébergé dans une galerie. On a une boutique dédiée avec des objets fabriqués par des artistes qui tournent autour de l'ardoise. Et c'est un site absolument exceptionnel. Hein. C'est pour le situer précisément. Donc on est à moins de 10 km au nord de Brive. C'est très bien indiqué. Et ça peut être un souvenir corrézien absolument, une expérience corrézienne absolument unique et exceptionnelle.
Un site unique en Europe, d'ailleurs, il faut le souligner. Et c'est vrai que il faut y aller. Moi, j'ai eu cette chance, Gilles, d'y être allé, d'avoir fait un reportage sur ce site-là. Et je peux vous dire que c'est quand même tout à fait extraordinaire et surtout de voir ce savoir-faire qui perdure. Et ça, c'est.
Ah oui.
Et ça, il faut le souligner.
Ouais, les ardoisiers ont vraiment de l'or dans les mains. Enfin, de l'or, pour le coup, c'est de l'ardoise, mais ont un savoir-faire qui est absolument exceptionnel. Il n'y a pas d'école d'ardoisiers. C'est un savoir-faire qui se transmet de père en fils, qui se transmet dans l'entreprise. Il y a des valeurs très fortes pour transmettre ce savoir, pour le véhiculer, pour essayer de pérenniser le métier. Et toutes les formes d'ardoise sortent des ardoisières de Trabassac, puisqu'il y a un site touristique et puis il y a un site de production qui est en contrebas du site touristique. Et il faut savoir que l'ardoise de Trabassac, c'est une ardoise de qualité, d'une qualité inégalée, qui recouvre une grande partie des toits des habitations. Et quand je dis habitations, ça peut être le bâtiment de ferme, mais ça peut être aussi des châteaux, des églises. Donc là, on parle de la Corrèze, une grande partie du Limousin. On parle d'une bonne partie de l'Auvergne, on parle de l'Aveyron également. Donc c'est des milliers, des dizaines de milliers de bâtiments qui ont été couverts avec cette ardoise. Et pour l'anecdote, pendant une bonne décennie, les ardoisières de Trabassac ont travaillé pour refaire la couverture de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Donc sachez, chers auditeurs, que l'abbaye du Mont-Saint-Michel a été entièrement refaite il y a 10-15 ans avec les ardoises des pans de Trabassac, donc avec des ardoises corréziennes.
Alors les ardoises qu'on retrouve également sur certaines tables, puisqu'on peut servir effectivement quelques petits plats sur des recettes, mais ça sera le thème de notre deuxième partie de l'émission, puisqu'avant de poursuivre notre escapade en terre corrézienne, on se fait une pause musicale avec un titre que vous avez choisi, Gilles, c'est « Trois cafés gourmands à nos souvenirs ».
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle?
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région.
C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un verre du Chabrol,
un petit goût de guignol,
les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères,
l'odeur de cette terre
vue sur les monétières.
C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants,
Bayonne s'il le faut, la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Papaya, papaya, papa.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Manger vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
C'était trois cafés gourmands sur Manger vrai, à nos souvenirs. Eh bien, nous, pour se souvenir, eh bien, sachez que nous sommes avec Gilles Berjal. Nous parlons de la Corrèze. Et tout à l'heure, nous avions évoqué, Gilles, les ardoises. Et les ardoises, ça nous amène indirectement au terroir, ça nous amène à la gastronomie et à la cuisine. Alors, je suppose que votre territoire, on peut le découvrir par son terroir aussi.
Absolument, la Corrèze brille aussi par un terroir d'exception dans lequel émergent des produits qui ont façonné la gastronomie corrézienne, qui ont façonné les habitudes culinaires, hein, et également des Corréziens, des produits qu'on trouve depuis des siècles. On va citer les plus emblématiques. Puisque la Corrèze est le deuxième département producteur de châtaignes, on l'appelait l'arbre à pain, hein, lors des siècles précédents. En Corrèze, la châtaigne, c'était vraiment la base de la nourriture. On dit qu'elle a sauvé plusieurs fois les Corréziens de la famine dans les siècles passés. Et il faut savoir quand même qu'au 18e siècle, les châtaigniers représentaient 40% des terres cultivées en Corrèze. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près 1500 tonnes de châtaignes qui sont produites chaque année en Corrèze. On va citer bien sûr donc sols acides, forêts, climat océanique tempéré. Donc tous les ingrédients sont là pour en faire un paradis des champignons. On va citer la cèpe, on va citer la truffe, on va citer la girole, qui sont abondamment déclinés dans les recettes corréziennes et qui donnent un parfum et un goût absolument unique aux mets corréziens. On peut parler de la gariguette, la fameuse fraise qui on veut dire une des stars de la vallée de la Dordogne, notamment vers Beaulieu sur Dordogne. Quand même plus de 700 tonnes de gariguettes qui sont produites chaque année dans ce merveilleux coin qui est la rivière Limousine, donc autour de Beaulieu-sur-Dordogne. Il y a une fameuse foire à la fraise, donc chaque année au mois de mai en Corrèze, et cette année c'est le 9 mai. Et ce terroir a été distingué, c'est remarquable du goût, donc pour la fraise. On peut citer quelques fromages, notamment la fameuse faute des bergères. On peut raconter très rapidement la légende. Donc il y a plusieurs éleveurs de brebis laitières ont cherché à faire renaître une recette traditionnelle d'antan, mais sans écrit. Il a fallu retrouver les bergères, recueillir leurs conseils. Tout ça se transmettant de façon orale. Et des mois et des expériences plus tard, ces producteurs sont revenus vers ces bergères, leur ont proposé un fromage qui n'avait pas vraiment le même goût, mais que les bergères ont jugé d'excellente facture au niveau gustatif, qui est un fromage qui était très beau, très très présentable, et l'ont validé. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la faute des bergères. Comme on dit, une faute légendaire, mais pas une faute de goût. On a également une viande qui est de renommée internationale. On peut parler du bœuf limousin, on peut parler du veau de lait sous la mer, notamment avec des foires très fameuses à Obja, qui là, bénéficie là aussi d'un label site remarquable du goût. On peut parler également de la noix. La noix, c'est un produit emblématique du sud-ouest corrézien qui façonne un peu les paysages. On voit des noyerets qui sont très très denses. Et il y a une route de la noix, la route de la noix AOP du Périgord, qui permet d'aller à la rencontre des producteurs, des restaurateurs, des distillateurs qui travaillent la noix, de visiter les marchés. Et il faut quand même signaler que donc aux confins de la Corrèze, de la Dordogne et du Lot, sur cette région qui possède le label de la route de la noix AOP du Périgord, eh bien c'est plus de 6000 tonnes produites par an et c'est la deuxième région productrice de noix en France. C'est décliné de façon différente, donc on peut découvrir un très original musée. Il y a des mouliniers, des musiciculteurs aussi qui peuvent offrir des expériences aux gens qui veulent venir découvrir les produits. On a déjà parlé de la pomme AOP du Limousin, la fameuse Golden d'altitude aussi, et puis plein d'autres choses, avec quelques vins notamment.
Absolument. Je voulais justement en venir. Est-ce que sur votre territoire, il y a du vin? Et quel type de vin on trouve?
Alors, au niveau du territoire corrézien, il faut savoir que c'est un territoire comme d'autres territoires où il y avait énormément de vins. Il y avait des centaines et des centaines d'hectares qui étaient occupés par le vignoble. Et le phylloxéra a décimé ces vignobles à la fin du 19e siècle. Et il y a une dynamique qui a été entreprise, qui s'est manifestée dans les années 80 avec des producteurs qui se sont donné la main, des agriculteurs qui ont voulu faire renaître cette tradition viticole corrézienne, replanter des cépages traditionnels et faire revivre le vin corrézien. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 2017, les vins de Corrèze sont en AOC, ça c'est très important, avec des vins qui vont se décliner. Donc c'est un petit terroir, on est aux alentours de 75-80 hectares, une quarantaine de producteurs, dont ce n'est pas forcément l'activité principale, hein, beaucoup sont agriculteurs par ailleurs. Donc on va avoir le vignoble de Brancel, avec le vin des mille et une pierres, donc un vin qui va se décliner en plusieurs variétés de rouge et de rosé, qui est essentiellement bio aujourd'hui. On a les coteaux de la Vézère, déclinés sur des sols schisteux de part et d'autre de la Vézère, avec notamment des vins qu'on peut trouver à la cave coopérative du Saillant, en bordure de cette rivière. Donc là, on est essentiellement sur des blancs. Des blancs secs. Ils ont également planté du chenin qui donne un joli blanc moelleux. Donc c'était vraiment des vins de qualité qu'on retrouve sur beaucoup de tables. Et on a un vin complètement atypique, puisqu'on est très très peu, nous sommes très très peu de régions de France à produire ce vin. C'est le vin paillé. C'est le vin de paille. Donc il faut savoir, du vin de paille, il s'en faisait en Corrèze déjà au Moyen Âge. Et aujourd'hui, il y a une quinzaine de producteurs qui fabriquent le vin de paille. C'est une tradition très ancienne. C'est ce qu'on appelle le pastillage, c'est-à-dire qu'on va augmenter de façon naturelle la concentration des sucres du raisin, les faisant sécher sur de la paille ou sur des clés qui sont des espèces de caisses aérées. Et donc le vin va être pressé. Donc il y a du rouge, il y a du blanc. Et ça donne un vin qui est très concentré, un vin qui est moelleux, qui possède beaucoup de caractère et qu'on va déguster en apéritif, qu'on peut déguster sur un foie gras et qu'on va déguster aussi en dessert. Notamment, ça va très très bien sur des desserts à base de chocolat. Et c'est vraiment quelque chose de très atypique, ce vin de paille.
Alors, pour refermer cette page gourmande, cette escapade gourmande, quelques bonnes adresses, je pense que vous avez ça à nous donner.
Alors, des bonnes adresses, eh bien, on n'en manque pas. On ne va pas pouvoir toutes les citer, mais il y a quelques endroits emblématiques où on mange très très bien. Brive-la-Gaillarde, hein, qui est une ville qui brille par sa gastronomie, par son dynamisme dans beaucoup de domaines, mais notamment par sa gastronomie. Donc on peut citer le restaurant étoilé la Table d'Olivier chez Pierre Neveu. On peut citer le restaurant emblématique que tous les auteurs et les artistes de la Foire du Livre de Brive connaissent, donc chez Francis, et également toujours à Brive. Et on peut citer d'autres chefs qui travaillent très très bien avec une cuisine de caractère, une cuisine personnelle avec des valeurs très fortes qui sont déclinées de façon talentueuse. On peut citer Nicolas Hesch au restaurant en cuisine. On peut citer Olivier Morin à la Toupine, Christophe Forger au Bistrot Forger, Nicolas Serre à l'Atelier du Moutier. Mais il y a d'autres adresses où on mange très très bien à Beaulieu-sur-Dordogne. On peut citer Pascal Stéphan au Turenne. On peut citer Patrick Sceau au Saint-Jacques à Argentat. On peut citer Cyril Auboirou, Stéphane Houdaillé respectivement au 7 et au Bouche à Oreille à Tulle. On a une superbe adresse également sur le plateau de Millevaches, c'est chez William Justin à Tarnac. On a également chez Françoise à Ménac où on fait les recettes ancestrales et traditionnelles perdurent d'une façon vraiment éclatante. Dans un adorable petit village qui est le berceau de l'entreprise mondialement connue de cosmétiques Sotis. Donc il y a un superbe site touristique qui s'appelle le Jardin Sotis. Et dans le site touristique, il y a également un restaurant qui a été ouvert. Et au fourneau, c'est Jean-Michel Salcedo qui exerce ses talents et on fait de très très belles choses, très inspirées. On peut citer très rapidement quelques plats corréziens emblématiques, le tourtou, l'amique, les farcis durs, le miyassou, la flognarde, la tête de veau. J'espère vous mettre l'eau à la bouche
rien qu'à l'évocation de rien de que déjà plats. Ça, oui, mais, ça c'est sûr.
Mais on est vraiment sur des plats emblématiques corréziens qui vont bien au-delà de la gastronomie. C'est aussi les valeurs corréziennes et l'histoire et la tradition corrézienne qui se décline dans ces plats qui sont extrêmement goûteux et très savoureux. Et qu'on trouve dans certains restaurants, bien évidemment, qui sont encore déclinés aujourd'hui.
Alors, on va adresser un grand salut à tous ces chefs qui, malheureusement, à l'heure actuelle, ne peuvent pas ouvrir leur restaurant, faute, bien sûr, à la pandémie. Mais on souhaite on est solidaire avec eux. Et en tout cas, on va prendre déjà note de toutes ces adresses. Les adresses qu'on peut retrouver, je suppose, sur un site internet, Gilles.
Oui, bien sûr. On ne peut que vous conseiller d'aller fréquenter notre site internet, le site portail du tourisme corrézien, qui est donc www.tourismecorrèze.com.
Voilà, c'est bien.
Donc c'est un site qui est très très riche, où vous trouverez tout pour préparer votre séjour corrézien.
Toutes ces bonnes adresses et tous les liens utiles seront bien sûr disponibles sur notre page Facebook ainsi que sur notre site www.manger-vrai.net. En tout cas, un très 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 grand merci Gilles pour nous avoir présenté ce beau département. Et dès que nous pourrons nous déplacer à notre guise, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser des plateaux en direct d'émissions enregistrées en public, eh bien c'est une destination que nous allons marquer en rouge sur notre agenda pour venir vous voir et découvrir ces belles choses et pourquoi pas pour le parcourir également à vélo. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle journée et puis nous on se retrouve pour un prochain numéro de Destination Région la semaine prochaine. Bonne journée.
Mangez vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.